Et c'est par ici, semble-t-il, qu'il faut chercher la transfiguration. On l'a localisé au Tabor pour la communauté des pèlerinages, et loin de moi de ne pas conseiller aux pèlerins de monter sur le Tabor. Mais quand on est dessus, on le voit plus, c'est un peu dommage, il est tellement beau dans le paysage. Mais je crois que ça vient d'un psaume. Bon, la montagne reste anonyme, mais on dit dans un psaume que le Tabor et l'Hermon ont exulté. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont exulté? À cause de la transfiguration. Et tant qu'à faire, prenons le Tabor, il est plus près, et c'est plus facile pour les pèlerinages. Mais je crois que, et beaucoup pensent comme ça, que c'est plutôt par ici qu'il faut chercher la montagne de la transfiguration. 6 jours après, et c'est pas par hasard, ça se rapproche de la durée qui s'étend entre le Yom Kippour dans la tradition juive et la fête de la transfiguration. Allez voir l'article du père Van Kang que vous trouverez dans la revue de Louvain. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, les mêmes qui seront témoins de l'agonie, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, comme sur la montagne que nous avons rencontrée au sud de notre périple, qui s'entretenaient avec lui. Et Saint Luc, si vous allez voir le passage parallèle, dit, lui parlait de l'exode, exodos, c'est le mot qui est employé, qu'il devait accomplir à Jérusalem. Saint Luc, toujours, ça rebondit sur Jérusalem, plus encore que Saint Matthieu. Pierre, alors prenant la parole, toujours pour dire ce que tout le monde pense, et dans Saint Luc, on nous dit que Pierre dormait. Une fois j'ai dit ça, et puis il m'a dit, mais non, mais j'ai entendu un révérend père qui dit que s'il entrait dans la nuée, c'est un sommeil mystique, Saint-Pierre dormait pas, c'est pas possible. Alors Saint-Luc le dit expressément, un sommeil biologique. Et moi ça me console, parce qu'à l'agonie aussi il dormira. Et c'est après qu'ils se rendent compte de l'importance de ce qu'ils ont vécu avec le Christ. Et nous c'est tellement comme ça. Les grands moments forts de notre existence, c'est seulement en réfléchissant rétrospectivement qu'on en découvre la signification. Ici, Matthieu est moins explicite que Saint Luc sur le sujet. Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes. Et comme dans la fête de la Transfiguration, on invite les grands personnages de l'Ancien Testament. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. La fête de Soukhot. Qu'est-ce que j'ai dit?
La fête de la transfiguration.
Ah là là, oui, c'est la fête de Soukhot. La fête des tentes, des tabernacles. Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse. Alors, rappelez-vous tout ce qu'on a lu dans le sud. La nuée lumineuse les prit sous son ombre. Et voici qu'une voix disait de la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Écoutez-le. » Shema. À cette voix, les disciples tombèrent sur leur face tout effrayés. Mais Jésus s'approchant les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus seul. Quand on lit le texte superficiellement, à première vue, on pense que c'est un rêve qui se dissipe. Mais ce n'est pas du tout l'intention des évangélistes. Quand on ne voit plus que lui, Jésus seul, eh bien c'est ce qui peut arriver de mieux. Ce n'est pas tout d'un coup une vision qui disparaît. C'est tout l'univers qui apparaît dans sa véritable lumière. Parce que Jésus n'est pas n'importe qui, il est le Verbe incarné, il est celui en qui réside corporellement la plénitude de la divinité, et en qui sont tous les trésors de sagesse et de science. Et quand on ne voit plus que lui, Jésus seul, c'est pas un rétrécissement de perspective, c'est au contraire l'intelligence qui évolue dans toutes ses dimensions. Et chaque fois qu'on dit les vêpres, là, on nous invite à réciter l'une ou l'autre de ces hymnes, des épîtres qu'on appelle de la captivité, et qui semblent refléter des liturgies antérieures au temps où Saint Paul rédige ces épîtres. Je vous lis ici simplement les Colossiens. Il nous a arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voilà l'hymne ici. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, seigneuries, principautés, puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Et il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église, il est le principe, premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il obtînt en tout la primauté, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude, et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Ils ne virent plus que lui, Jésus seul. C'est tout l'univers, encore une fois, qui apparaît dans sa vraie lumière. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. Mais Jésus, semble-t-il, a voulu donner à ses apôtres un avant-goût, pas du terme de l'aventure où il les menait. Et nous voyons encore une fois cette admirable pédagogie. Et nous vérifions une fois de plus cette grande loi que nous avons dégagée dès le premier jour. Rappelez-vous ce qu'on dit à propos d'Abraham. Dieu dit tout d'un seul coup. Et puis ensuite, dans le concret de l'existence, eh bien, nous cheminons à la conquête de ce que nous connaissons déjà. Vous vous rappelez cette grande loi, la valeur des commencements. Et alors ici, les apôtres vont rester accrochés au Christ, séduits par le mystère de sa personne. Ils vont le suivre, ils vont montrer qu'ils ont des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre, pas qu'ils ne comprennent toujours rien. Ça sera encore comme ça lorsqu'ils commenceront à monter à Jérusalem. Cette montée qui commence ici va trouver une sorte de paroxysme entre Jéricho et Jérusalem. Et là, Jésus encore guérit deux aveugles pour montrer qu'il faut un véritable miracle pour le rejoindre dans la solitude incomprise de ces options messianiques, cette voie étroite. Et lors de la passion, les apôtres se disperseront, sauf Jean le théologien à l'école de qui nous mettrons demain. Et puis, sur la route d'Emmaüs, rétrospectivement, le Christ dira « Ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffrit avant d'entrer dans sa gloire ?» Vous sentez que nous mettons dans notre mémoire, dans notre intelligence, dans notre cœur, des vérités graves, que chacun comprendra lorsque l'heure sera venue pour lui. Nous mettons ensemble dans notre mémoire des choses que chacun comprendra. Chacun est l'objet d'une pédagogie spéciale de Dieu qui lui donne au fur et à mesure qu'il est capable de porter. Comment est-ce que nous mourrons écrasés par un camion, sur un lit d'hôpital, avec tous les appareils là, qui permettent de survivre un peu plus longtemps? Comment est-ce que nous mourrons matraqués par une police quelconque dans un cachot? On n'en sait rien. Mais nous avons cette certitude qu'à ce moment-là, où toutes les relations humaines se défront, nous serons complètement seuls, que nous rejoindrons dans notre solitude même celui qui, dans sa solitude la plus totale sur la croix, a opéré le déchirement du voile. Et nous aurons cette certitude que nous sommes nous aussi au seuil de cette vision béatifique, comme disent les théologiens, où nous verrons le Seigneur comme Dieu nous voit maintenant. Et puis sur nous, comprendre la transfiguration maintenant de telle sorte que cette illumination nous accompagne tout le reste de notre existence. Et que même si nous passons par des ravins de ténèbres, par des ravins comme ceux qu'on voit devant nous, là, dans ces paysages tourmentés, eh bien, son bâton, sa houlette, Dieu est notre berger. Vous rappelez ce psaume que j'aime bien de chanter ici. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque, sur des prés d'herbe fraîche, il me parque. Vers les eaux du repos, il me mène, il refait mon âme, il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. La demeure et la maison de Dieu ont la longueur des jours. Et ce qu'on peut admirer, c'est les lois de cette pédagogie divine, voyez. Dieu, comme tout au long de la Bible, mène du désert vers une terre où coule le lait et le miel. Vers une terre, on va rejoindre la première des tribus, la tribu de Dan, où rien ne manque de ce que l'homme peut désirer sur la terre. Ensuite, le Lévite exilé habitait quelque part par ici, et Dieu fait éclater toutes ses idées. Comment est-ce qu'on pourrait rejoindre Dieu, le créateur de tout, si notre être n'éclatait pas pour s'ouvrir à l'infini? Et alors Dieu nous révèle ça progressivement, mais sans jamais nous proposer de ces spiritualités moroses qui nous rendent asthéniques, maussades et qui stérilisent l'existence. Au contraire, il stimule toutes nos énergies. Notre corps sera planté en terre un jour comme une semence, mais il nous invite à enrichir cette semence tout au long de l'existence afin que dans l'éternité, les fruits soient plus beaux encore. On a à vivre sans aucune morosité ou masochisme cette suite du Christ. Mais le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et ça, il faut le savoir, chacun l'apprendra. Chacun est appelé à partager les souffrances du Christ avant de partager sa résurrection. Et c'est un grand privilège que Dieu fait aux saints de les accompagner aussi loin que possible dans sa souffrance pour participer ensuite à sa résurrection. Que ces vérités graves que nous mettons ensemble dans notre cœur se révèle pour chacun. On va se séparer, mais chacun va continuer à marcher. On ne sait pas où on va, mais on sait comment marcher, et c'est déjà énorme. Oui, alors, il y en a toujours qui disent, bon, il ne va plus que lui, Jésus seul. Je trouve qu'on a tort de, et certains le font actuellement, de mettre la religion judéo-chrétienne pas, comme une religion parmi d'autres. Bah, c'est pas une religion parmi d'autres, c'est un dessein de Dieu qui se poursuit de la Genèse à l'Apocalypse. Et puis alors, la résurrection du Christ, c'est la bonne nouvelle au singulier, avec un article défini. Et il y en a qui disent, bon, il ne faut pas faire de mission, il ne faut pas casser les pieds des autres. Et c'est vrai, bah, d'une certaine manière, le Concile du Vatican l'a encore reprécisé, tout homme est sauvé s'il est vraiment de bonne foi. Alors, vous me direz, pourquoi vouloir proclamer aux autres? Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une bonne nouvelle qu'on ne partagerait pas? Vous voyez, on ne parle que de partage actuellement. Bon, est-ce qu'on va tout partager sauf le principal? C'est tout de même pas rien, pas que l'absurdité de la mort ait été vaincue, qu'il y ait une tête de pont de l'autre côté, que cette certitude qui nous habite au plus profond, que si nous marchons comme il a marché, nous parviendrons là où il est. Alors on va tout partager sauf ça. Qu'est-ce qui a envoyé Saint François Xavier là jusqu'au Japon? Qu'est-ce qui a envoyé sur les routes prêcher la bonne nouvelle? Sinon ce dynamisme intérieur qu'on ne peut pas contenir. Il ne s'agit pas de casser les pieds des autres, de leur faire perdre leur identité. Il s'agit au contraire de leur donner ce qui leur permettra d'épanouir ce qu'il y a de meilleur dans leur personnalité. Et la religion judéo-chrétienne n'est pas une religion parmi d'autres. C'est un grand fleuve qui traverse toute l'histoire du monde et qui est capable de mener à leur plein épanouissement toutes les valeurs qu'on trouve dans toutes les civilisations. Ce n'est pas une perte d'identité, c'est au contraire une possibilité d'épanouissement qui est donnée à tout le monde. Toutes ces civilisations, comme toutes les personnes, sont des arbres plantés au bord de ce grand fleuve qui coule de la Genèse à l'Apocalypse. Et pour que ces arbres donnent leurs fruits en leur temps et selon leur espèce, pour que les échanges soient de plus en plus riches dans cette cité de Dieu, alors où l'unité n'est pas faite d'uniformité, mais d'une infinie variété, hein, comme dans cette nature que nous contemplons, cette extraordinaire variété des fleurs au printemps. Alors nous sommes appelés à entrer dans le grand jeu de la fécondité divine et de la création. Et si nous voyons plus que lui, Jésus seul, eh bien à ce moment-là, tout ce qui est créé apparaît dans sa vraie lumière. Il y a souvent dans les groupes des théologiens là, qui veulent approfondir un peu ce rapport des six jours entre la tradition juive et la tradition chrétienne. Je vous donne la référence ici de l'article qui pour moi était assez bouleversant. C'est Van Kang et Van Esbroek. La primauté de Pierre et son contexte judaïque, dans la Revue théologique de Louvain en 1980, fascicule 3, page 310 à 324. Le père Van Kang avait fait auparavant un article sur la Galilée, un lieu théologique. Oui, on passe de la géographie à la théologie. Jésus passe de l'eau sur l'autre rive, puis la Galilée dans les évangiles, la Galilée des nations.